Radio Campus Tour, 99.5 FM.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 13e numéro de C'est la faute à la manette, l'émission entièrement consacrée aux jeux vidéo qui n'est pas superstitieuse. Alors cette semaine on avait besoin de changements et on avait aussi besoin de revenir sur une saga que certains considèrent comme potentiellement culte, j'ai nommé la saga Uncharted. Ça vous parle Uncharted ?
Un petit peu aussi.
Juste un tout petit peu.
D'accord. Alors, autour de la table, on a comme toutes les semaines Guillaume, appelé aussi l'homme qui meurt plus vite que son ombre à Dark Souls 3.
Non, Salut. Ça va.
Ça va, Guillaume ?
Oui, je meurs pas si souvent que ça.
Ah, il me semblait qu'au début, tu mourrais une dizaine de fois par minute.
Ah, peut-être pas une dizaine de fois par minute, mais c'est vrai que ça me faisait rager rapidement. Mais là, non, maintenant, j'arrive à.
Ça va un
quelques
peu
minutes,
mieux.
Ouais.
Bon, il meurt moins parce qu'il a arrêté de jouer, en fait.
Non, c'est pas vrai.
Il se fait maltraiter, Guillaume, dès le début.
Dès le début. Première minute, c'est bon, c'est fini. Bon.
Et également, en face de moi, l'homme qui a révisé son historique Naughty Dog à la vitesse de l'éclair et qui est prêt à remplacer l'ami Tom au pied levé. Donc, on te remercie vivement. C'est Ferdi. Salut, Ferdi. Comment ça va?
Bonjour à tous. Ça va très bien.
Ça va?
Je suis bien révisé.
Tu termines ton événement de tout à l'heure?
Oui, ça va. Les joies de l'aléa de la ville.
D'accord. Alors, donc, comme on parle de la saga Uncharted, on avait besoin d'un expert, donc on accueille un invité, une grande première pour nous, parce que c'est notre premier vrai invité, finalement. Ce n'est pas n'importe qui, d'ailleurs, il va se présenter d'ailleurs lui-même, on le nomme Antistar. Salut Antistar, comment tu vas?
Bonsoir, ça va très bien, et puis merci beaucoup pour la petite invitation.
Écoute, de rien. Alors, est-ce que tu veux bien te présenter vite fait à nos auditeurs? Dis-nous un peu ce que tu fais, ce que tu aimes, ton numéro de carte bleue, enfin tout. On t'écoute.
Tu veux mon PayPal et mon accès à PayPal aussi
comme mot de passe? Aussi, bien sûr, ça nous arrange.
D'accord, ok. Donc effectivement, je réponds au magnifique et très doux pseudo de Antistar. Mon vrai prénom, c'est Guillaume. J'ai 29 ans et j'insiste vraiment sur les 29 parce que je suis très près des 30 et ça me fait chier. Je travaille chez jeuxvideo.com. Je fais partie de l'équipe de community manager du site, donc je gère des animations de forum, de la modération, ainsi que aussi les articles que nous envoient les lecteurs de temps en temps, dont je fais une petite sélection toutes les semaines. Et aujourd'hui je ne travaille pas, j'ai pris mon petit jour de RTT pour faire le pont de l'ascension parce que je suis plus malin que mes collègues. Voilà.
Et pour venir nous voir en plus.
Et pour venir vous voir exactement.
Quelle
à Tours.
Quelle belle façon de perdre son temps.
Tout à fait, tout à fait.
Alors les amis, est-ce que vous aviez des questions à lui poser? Pour commencer, Guillaume, t'as l'air.
Ouais, je sais pas, moi qui fais de la communication aussi au sein de cette radio où nous sommes aujourd'hui, comment ça se passe sur jeuxvideo.com? Parce qu'il y a pas mal quand même de trolls, c'est pas trop dur?
Alors en fait, moi je suis quelqu'un qui, comme mes collègues de ce service, est issu de la communauté de jeuxvideo.com, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de toute façon quelqu'un qui bosse là-dedans et qui fait pas partie lui-même des forums à la base, qui connaît pas le site comme sa poche depuis super longtemps. Donc je suis assez blindé contre ça, c'est-à-dire je me fais moi-même défoncer et insulter par tout un tas de nos lecteurs et de nos forumers toutes les semaines. Et j'ai envie de dire, voilà, bon, c'est un boulot qui est aussi passionnant que complexe, parce qu'on a tout un tas de cas à gérer qui sont très difficiles. Parfois, on a des cas à gérer, c'est presque un petit peu comme un procès, en fait, où on doit savoir un petit peu la sanction à donner à une personne, qui évidemment sera jamais d'accord avec. On doit essayer de peser le pour et le contre, d'essayer d'être à la fois indulgent, mais d'être aussi intransigeant, parce qu'on a des cas quand même qui parfois sont très graves. C'est un boulot qui est complexe, qui est pas du tout facile à gérer, qui est pas à la portée de n'importe qui. Je pense que quelqu'un qui a jamais fait de modération, de forum, de chat, peut vraiment pas suivre, parce qu'il y a, comment dire, il y a tout un tas de situations auxquelles il faut s'adapter, qu'il faut vraiment connaître de longue date. Après, c'est une partie seulement du boulot. On pourrait penser, voilà, que je suis quelqu'un qui travaille que pour faire de la modération, mais je fais tout un tas d'autres trucs à côté qui sont tout aussi passionnants. Et évidemment, bah voilà, c'est quand même c'est un boulot aussi qui se trouve quand même très près de l'industrie du jeu vidéo, puisqu'on est au contact de toute l'équipe de journalistes et de la rédaction avec qui on travaille en étroite collaboration. On a du coup pas mal de boulot, notamment pendant l'E3, où on doit animer justement les lives des conférences, interagir avec nos lecteurs, tout ça. Donc c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose de pas évident, mais de passionnant, et pour lequel de toute façon il faut être passionné et avoir envie de faire des heures sup tout le temps aussi.
D'accord, ok, très bien. Ferdi ?
Moi, je suis la communauté speedrun, donc j'ai connu ton pseudo sous des runs de Mario Kart.
Ah oui.
Voilà.
Oui, ça, c'est sûr. Voilà. C'est sûr qu'effectivement, ouais, ça a été ma marque de fabrique pendant pas mal de temps, et je m'en détacherai pas facilement.
Et aussi pour les vidéos que tu fais de ta collection privée de jeux vidéo qui font mal aux yeux quand on est un peu collectionneur oldies.
Celles qui ont été diffusées sur jeuxvideo.com, oui, il y a quelques semaines.
Oui,
ouais.
Oui.
Bah oui, sur Mario Kart, oui, ça c'est... c'est... On réévoquera peut-être Mario Kart quand on parlera de Crash Team Racing tout à l'heure, parce que je pense qu'on l'évoquera.
Ouais,
oui, Mario Kart, c'est sûr que c'est une très très grosse partie de ma vie, parce que c'est le seul jeu vidéo que j'ai pratiqué à un très très haut niveau. De toute façon, voilà, c'est pas, voilà, de l'avantardise ou quoi, il y a eu des compétitions qui ont été organisées, il y a eu des concours, et bon, j'ai eu des records du monde sur le jeu. Je suis encore numéro 1 mondial en contre-la-montre sur ce jeu, donc vraiment sur le premier Mario Kart sur Super Nintendo, hein, pas sur les plus récents. Et j'ai présidé pendant 6 ans aussi une association qui organise un championnat annuel sur ce jeu, qui d'ailleurs se tiendra encore cet été à Strasbourg du 24 au 28 août, une association qui s'appelle la Fédération Française de Super Mario Kart, et qui est qu'on peut trouver donc sur le site web ffsmk.org. Et bon, j'ai un petit peu pris de retrait vis-à-vis de tout ça, notamment parce que j'ai un boulot maintenant qui est dans le jeu vidéo, donc quand je rentre chez moi, si le jeu vidéo, ça peut être plus un loisir qu'une, comment dire, que quelque chose, voilà, de d'éprouvant et qui nécessite pas mal d'implication. Voilà, j'essaie quand même de prendre un petit peu de recul dans mon approche de vidéo. Il faut toujours que ce soit un peu le centre de ma vie, mais pas non plus avec le même niveau d'implication, parce que sinon ça va me rendre fou à force.
D'accord, ok. Bah, de toute façon, on mettra les liens de l'association sur la page,
ouais,
la page
on
de l'émission.
Mettra dans l'article, je pense, sur le site.
Dans l'article officiel.
Ah, merci beaucoup à vous.
Ok, alors donc cette semaine, on revient sur l'histoire du studio à l'origine d'Uncharted, mais également d'autres licences cultes de Naughty Dog, du coup, suivie par notre analyse des 3 jeux de la série Uncharted, ainsi que nos attentes et peut-être même des infos sur le 4e épisode. Bien sûr, il restera quand même notre quiz, donc fait par notre invité cette fois-ci. Et l'intervention rapide de Professeur Gorfus, donc qui viendra nous embêter une dernière fois pour
dernière
le moment.
Une dernière fois ?
Je crois qu'il commence à se faire un petit peu vieux et qu'il risque de mourir dans pas longtemps. On verra, je vais voir avec lui.
Okay.
Donc, on va passer par une petite partie globale qui vous résumera un petit peu l'histoire du studio en quelques points clés. Donc, c'est un studio qui a été fondé en 1986 par Andrew Gavin et Jason Rubin. Les deux fondateurs considèrent toutefois que leur aventure avait démarré en 1984 alors qu'ils travaillaient sur des titres de garage, comme ils le disent. Le studio démarra donc avec Ski Crazed, est-ce que je le prononce bien ? Oui, sûrement. Un jeu de sport recréant la compétition annuelle de ski du Kilimanjaro. Alors c'est précis. Hein.
C'est très précis.
On sent déjà la volonté de réalisme du studio
Dès
1984. Le jeu fut suivi de Dream Zone et de Keep the Thief. C'est donc deux autres jeux dont je parlerai juste après. C'est durant le développement de ce troisième jeu que le studio a pris son nom actuel en souvenir de leur chien. Voilà.
Qui donc était méchant.
Voilà, il était apparemment pas très gentil, donc ils sont appelés Naughty Dog, voilà,
okay,
pour l'anecdote. Donc après Rings of Power, le travail des développeurs a été mis quelque temps en suspens, et c'est en 1994 que les choses se sont mises vraiment en route et que le studio de développement est devenu un petit peu digne de ce nom et a commencé à travailler sur PlayStation. Donc avec, tout le monde les connaît, les trois premiers Crash Bandicoot, Crash Team Racing, oui, Jack and Dexter, la saga Uncharted dont on va parler un petit peu, et bien sûr The Last of Us, dont on parlera aussi on parlera aussi un petit peu. Donc, c'est un studio qui a su évoluer au fil du temps, qui a toujours été exclusif d'ailleurs depuis 1996 même à Sony. Donc on va juste faire une petite pause maintenant et ensuite on reviendra sur l'intégralité des jeux du studio. On va faire un petit peu l'historique un petit peu plus développé.
D'accord, donc on va s'écouter un petit bruit de Crash Bandicoot, il me semble.
Non, c'est le premier ou le deuxième.
Ah oui, bah non, on vient de s'écouter l'OST Crash Team Racing.
Ah, oh là là, j'ai mal fait mon OST.
Oh là là.
Oh là là, c'est vraiment triste.
Oui, tout à fait, alors tu veux qu'on s'écoute quoi?
Alors, est-ce que tu as une chanson sympa? Allez, mets-nous The Last of Us par exemple.
Eh ben c'est parti. Donc on vient de s'écouter la musique de l'OST de The Last of Us, donc jeu de Naughty Dog, l'avant-dernier jeu de Naughty Dog sorti sur PlayStation 3, avec la musique The Quarantine Zone, 20 ans plus tard. Voilà.
Donc on va commencer un petit peu avec, comme je disais, avec l'histoire du studio. On va revenir sur chacun des jeux de
Naughty Dog.
De Naughty Dog, exactement. Et c'est toi, Guillaume, qui va nous présenter les deux jeux les moins connus, je crois.
Ouais, on va revenir sur ce que tu disais au début, sur comment Naughty Dog a été en fait le tout début, la période pré-PlayStation,
voilà,
on pourrait l'appeler.
Tout ce qui se passe avant.
Et donc tout a commencé pour Naughty Dog avec le jeu Ski Crash Crazed, donc le jeu qui nous parlait du coup de ski au Kilimanjaro. Qui, comme son nom l'indique, est un jeu de ski au Kilimanjaro et qui est sorti d'abord sur Apple II en 1984, mais il ne sera jamais réédité, mais un niveau de Crash Bandicoot y fera directement référence, donc voilà. Petit hommage à leur premier projet.
Et c'est un jeu, je crois que c'est un niveau d'ailleurs avec un jet ski dans Crash Bandicoot.
Ah, je m'en rappelle plus.
Il y a un niveau qui s'appelle Ski Crazy.
C'est ça.
Exactement. Donc voilà, c'était un petit hommage, mais je pense bien que
c'est important de dire de la Wii U.
C'est presque indirectement aussi un hommage à ce niveau, finalement, qu'il y a des phases de jet ski dans le premier Uncharted aussi.
Oui. Et on reparlera aussi d'autres choses que Naughty Dog aime bien faire.
Ils aiment les easter eggs,
ouais. Ouais,
d'accord. Bah alors, donc, après Ski Crazy, ils sont arrivés avec Keef the Thief, donc Keef le voleur, qui est un jeu PC. Voilà.
Keef, c'est son nom. Hein.
Ouais, voilà. Donc, c'est un jeu PC et qui est sorti aussi simultanément donc sur PC et sur Apple II. Et donc, comme son nom l'indique pas, est un point and click à l'ancienne avec des châteaux, des femmes en jupe, des gardes un peu stylés comme un Bard's Tale.
Voilà, c'est un petit peu un point and click à l'ancienne qui se passe avant tous les jeux LucasArts. Donc c'est vraiment un truc, il faut sélectionner une action puis une autre, dire où tu vas le faire, c'est super chiant. Ça a l'air très chiant, mais voilà.
Les point and click juste en audio, c'est pas bon.
C'est horrible.
C'est le plus mauvais style, je pense.
Et apparemment, Ferdi connaît super bien le jeu puisqu'il a le speedrun. Il a proposé un speedrun de Stunfest et il a été rejeté, malheureusement. On se demande pourquoi.
Bizarrement, c'est
8 heures de jeu.
C'était
je pense.
Peut-être un peu ennuyeux, mais on n'est pas sûr.
Donc après, ils ont fait Rings of Power. C'est un jeu de rôle en 3D isométrique, édité par Electronic Arts en 1991 sur Mega Drive. La quête du jeu est de réunir un compagnon de chaque guilde en se rendant auprès de maîtres, puis à parcourir le monde à la recherche des anneaux de pouvoir, comme le nom l'indique. Les 11 anneaux réunis reforment le spectre de Nexus, chaque anneau est affilié à une guilde. Donc ça j'ai pas connu du tout.
Alors je pense que c'est le Seigneur des Anneaux sans la licence.
Ouais, ça ressemble vraiment à ça quoi.
Ce qui est étonnant c'est que c'est Electronic Arts, c'est Electronic Arts qui a fait des jeux Seigneur des Anneaux après.
Oui, mais ouais, bien plus tard.
C'est possible.
Oula,
c'est rigolo ça.
C'est possible, ouais, c'est possible.
C'est vrai.
Et après, ils ont fait un jeu donc, que je connais, par contre, c'est Way of the Warrior. Donc, c'est un jeu vidéo de combat sorti sur 3DO en 1994. Il a été édité par Universal Interactive Studios. Et alors, c'est un jeu donc, sur 3DO en full motion captures, avec des voix numérisées, une BO dantesque, avec du Rob Zombie. Il y a du White Zombie, mais il y a aussi un morceau de Rob Zombie, je crois, dedans. C'est beaucoup de métal, beaucoup de rock, et c'est un jeu très très gore à la Mortal Kombat un petit peu.
Voilà. Il me semble que le jeu en lui-même était pas très très bon, mais que l'OST était plutôt...
Enfin, le jeu est pas très bon, le jeu est très drôle, ça fait partie de ce que j'appelle des nanars de jeux de combat en fait.
Voilà. Voilà.
Mais on peut quand même y jouer, sans celui-là, voilà. C'est pas Pit Fighter ou des jeux comme ça, ou injouables.
D'accord, bon, on voit le genre. Bah alors, on va passer du coup avec la période PS1, donc un petit peu le point d'orgue du studio,
le
Graal, là où ils ont commencé finalement à être un petit peu connus, à développer des licences fortes. Donc on va commencer avec la série des Crash Bandicoot. Donc qui connaît la série des Crash Bandicoot ici?
Même pas moi. Monde,
pas toi.
Ouais, personne.
Qu'est-ce que tu fais ici, sort, Ferdi?
C'est vrai, c'est ça.
Tu as jamais joué, Ferdi?
Si.
Tu me trollais là?
Oui, totalement. Si, non, j'ai pas joué aux épisodes PS2.
D'accord, non, mais il n'existe pas, on n'en parle pas.
Les titans là, le.
Oui, c'est ça.
Entre autres.
De toute façon, c'est même pas Naughty Dog qui les a fait.
Voilà,
en plus. Voilà, on n'est pas.
On est hors sujet en plus.
Vous avez joué auquel du coup? Des Crash Bandicoot.
J'ai fait un peu le 1 et c'est surtout, moi j'avais sur PlayStation 1 le Crash Team Racing.
D'accord.
Moi c'est le 3 surtout et Team Racing et Crash Bash, mais qui n'est pas produit par Naughty Dog.
D'accord, Antistar.
Le 1, le 2 et le 3, vraiment. J'ai touché un peu à Crash Team Racing pour comparer avec Mario Kart 64 à l'époque, mais non, d'accord. C'est vraiment le 1, le 2 et le 3, grosse référence. Tous les 3 fait à 100%.
D'accord. Bah écoute, moi c'est le 2 et le 3, tout simplement. On a tous vécu des choses un petit peu différentes finalement.
Ouais. C'est vrai.
Alors, Crash Bandicoot, il est sorti en 1996 sur PlayStation, donc c'est le premier jeu de la trilogie.
Il y a 20 ans déjà.
Oui, on rappelle, il n'y a aucun Crash Bandicoot qui existe après le 3. Hein. Ça n'existe pas, les jeux sont tellement mauvais.
C'est comme Die Hard, il n'y en a que 4.
Voilà, par exemple.
Et encore.
Donc ça a été un des jeux phares de la PlayStation, il s'est vendu à presque 7 millions d'exemplaires, et c'est le 8e jeu le plus écoulé de la console. Ce qui est plutôt pas mal
pour une
nouvelle licence, un tout premier jeu d'un studio que personne ne connaissait à l'époque. On y retrouve donc Crash, un marsupial avec un pantalon qui doit sauver sa petite amie Tanoa des griffes du professeur Néocortex et également, de ce que j'ai lu, nettoyer la pollution. Est-ce que c'est bien ça?
On a plutôt l'impression que tu parles de Mario Sunshine là.
C'est presque ça, c'est presque ça. Mais si ça se trouve, Mario Sunshine s'est inspiré, Nintendo n'a rien inventé.
Mais Nintendo n'a jamais rien inventé de toute façon.
Ça c'est fait.
Alors on retrouve aussi le masque Aku Aku qui permet d'aider Crash dans ses aventures en le rendant donc touchable, parce qu'en principe dans Crash Bandicoot, si tu te fais toucher une fois, tu meurs. Avec le masque, tu as le droit de te faire toucher une fois, et avec deux masques, tu deviens invincible pendant quelques secondes.
Et ça fait boule gaga.
Boule gaga. Alors justement, Guillaume va vous passer un petit extrait, le fameux extrait culte du masque.
Ok, bah
je vous poserai une petite question après.
C'est parti.
Vas-y. Boule gaga.
C'était magnifique.
Voilà, donc ça, c'est le bruit qu'on entend du coup, quand on met le masque. Donc ma question, qu'est-ce que vous entendez quand Crash prend le masque ?
Boule gaga.
Boule gaga pour toi, ok ?
Je m'en souviens plus du tout.
Tu viens de l'entendre. Ouais, qu'est-ce que t'as entendu ?
Boule gaga.
Boule gaga.
Copieur. Okay.
Ouais, bah c'est ça, ouais.
Pareil. Boule gaga.
Boule gaga.
Alors, j'aurais bien aimé vous donner une anecdote à ce propos. J'ai cherché partout, j'ai écumé tout le web. Je ne sais pas ce qu'il raconte. J'en ai aucune idée, mais je voulais vous le repasser parce que c'est un bon souvenir pour moi. Du coup, une petite anecdote, il y a trois niveaux qui n'ont pas été intégrés dans le jeu final. Les deux premiers sont plutôt inconnus et voilà, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Par contre, le troisième est accessible via un code action replay, il est nommé Stormy Ascent. Donc c'est un niveau entièrement en 2D vu de côté, et où Crash doit monter des escaliers, éviter des pièges. Il dure assez longtemps et apparemment il aurait été retiré du jeu parce qu'il était soi-disant trop difficile, trop hardcore.
Ce qui est marrant, c'est que le descriptif que tu fais, c'est on a l'impression que tu décris le niveau Slippery Climb qui est vers la fin du jeu et qui, mais vraiment, c'est totalement ça. C'est en plus c'est de la 2D de côté, c'est d'accord. Une ascension d'une espèce de tour qu'on voit donc vraiment que de côté et qui est pour moi le niveau le plus difficile du jeu.
Et bah c'était un autre niveau comme ça.
Et ouais, ils ont peut-être fait encore plus dur justement une version hardcore de ce niveau.
Bah, j'ai vu une vidéo justement du niveau et c'est beaucoup de plateformes qui s'en vont, de mecs qui te balancent des trucs en même temps et puis de ça a l'air complètement fou.
C'est du Meat Boy avant l'heure.
C'est exactement ce que j'allais dire.
Donc il était présent sur le quand même, il était quand même présent sur le CD.
Il était quand même présent sur le CD. Je d'accord. suppose qu'il a pas été enlevé. Et qu'il est accessible via un code action d'accord. replay okay. sur toutes les versions, qu'elles soient européennes, japonaises ou américaines.
D'accord.
Donc j'ai les codes et je pourrais éventuellement les mettre sur la page Facebook pour marrant, les trois personnes que ça peut intéresser.
Ouais, ça peut être rigolo.
Sur
quoi.
Terre.
C'est sûr, pourquoi pas.
Alors, ensuite, ils ont sorti Crash Bandicoot 2, donc c'est la suite bien sûr directe du précédent épisode. Il se vend bien mieux que son prédécesseur, je crois, à hauteur d'un million de plus, donc ça fait presque 8 à 9 millions.
Ouais,
il inclut de nouveaux persos comme la sœur de Crash, hein, je crois qu'elle est bien apparue dans le deuxième, elle s'appelle Coco,
ouais. si mes Coco souvenirs Bandicoot. Sont bons.
Il y a des phases plus variées, il y a notamment des phases en sous-marin, des phases en jet ski, je crois des phases en panda, j'ai plus le nom, en tigre.
Ah, Purin.
Oui, c'est ça. Un petit tigre. Et on a aussi, bien sûr, une des meilleures introductions de toute l'histoire du jeu vidéo. Est-ce que tu aurais une petite musique à nous passer, Guillaume ?
Ah oui, il me semble. Eh ben, je te la passe tout de suite. Donc, l'introduction...
Attends, on parle déjà de Last of Us, là ?
Non. Alors, excuse-moi. Non, en fait... On va écouter la fin. En fait, quand Crash meurt, il y a Néocortex qui lui parle, qui lui balance des insultes à la tronche.
Eh ben, vas-y, je mets ça.
Vas-y.
Tu rejoues, Crash.
Donc là, c'est quand tu décides de rejouer, de continuer.
C'est marrant, il y a presque un côté Joker dans ouais. les Batman.
Ouais, c'est ça,
quand il vient t'insulter. Ouais.
Oui, c'est vrai. Ouais. Ça rappelle vachement ça.
Je savais que tu n'étais pas à la hauteur, Crash.
Voilà, et ça, c'est quand tu décides de ne pas continuer le jeu.
D'accord.
C'est
voilà.
Marrant.
Est-ce que quelqu'un a une petite anecdote sur ce jeu ou une petite chose à dire à propos de Crash Bandicoot 2 ?
Ouais, ça a été le premier sujet de dispute avec ma copine à l'époque.
D'accord.
Parce qu'en fait, c'est elle qui m'a fait découvrir les Crash Bandicoot avec pas mal de retard. Elle les avait fait à l'époque de la PS1, okay. Où je les ai fait pratiquement 10 ans après, en fait.
Okay.
Et elle est persuadée que le plus dur des trois, c'est le 1, et moi, je maintiens que c'est le 2. Pour moi, le 2 est vraiment un gros challenge. Notamment certains niveaux qui, justement, on doit revenir en arrière en fait sur ses pas, sur des passages qui étaient déjà difficiles avec une caméra qui n'est pas du tout dans le bon sens pour ça. Et le faire à 100%, c'est vraiment 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 un gros challenge. Je trouve que Crash Bandicoot 2 dans son genre, c'est un des vraiment à finir à 100%, c'est un des jeux les plus durs que j'ai pu faire.
D'accord. Guillaume,
J'ai pas fait Crash Bandicoot.
Ah oui, c'est vrai. Tu l'avais fait faire dit toi ?
Ouais, je l'ai fait mais j'ai très peu de souvenirs. J'avais fait en fait le 2 et le 3 et surtout le 3 en fait qui m'avait
qui t'avait marqué. Ouais. On va en parler justement. Donc Crash Bandicoot 3, donc c'est le dernier épisode de la trilogie sur PlayStation. Crash 3, c'est un monument à bien des niveaux, en tout cas pour moi, c'est vraiment mon épisode préféré. Il y a plein de nouveaux véhicules, je crois, comme les motos, des secrets de partout. Je crois qu'on peut finir le jeu à 100... 103. 103% exactement. On voyage à travers les époques, d'ailleurs, dans celui-là.
Ouais, d'accord.
Il me semblait. Il y a des morts de plus en plus nombreuses. Donc pour moi, c'est un peu le Crash Bandicoot ultime. C'est vraiment celui qui a affiné la formule au maximum et qui a rendu un petit peu cette saga un petit peu plus culte.
Une fois de plus, ouais.
Il s'est encore mieux vendu, bien sûr, que les deux premiers.
Moi, j'allais te le poser.
Voilà. Ouais. En fait, chaque épisode se vend mieux que le précédent.
C'est
la meilleure
vente de l'histoire de la série, je crois, le 3 d'ailleurs.
Oui, exactement.
C'est assez impressionnant, ça, de réussir à...
À faire des suites qui marchent et qui sont mieux, c'est quelque chose qui s'est perdu.
Electronic Arts, si tu nous entends.
Ça n'a pas été l'épisode de trop, en fait, parce que le 2, c'était évident de faire ce qu'on appelle en anglais du bigger, better. Et le 3, ça aurait pu justement avoir un soufflet qui retombe un peu, c'est-à-dire reprendre la recette du 2, mais pas non plus vraiment la transcender. Et finalement, le 3, à part qu'il soit peut-être un tout petit chouïa plus facile, il reprend tout ce qu'il y a de bon, il ne rajoute que des bons trucs. Et je trouve que dans les grosses forces, il y a le fait d'avoir ajouté un mode time attack avec les fameuses reliques de bronze, argent, or et platine, qui sont des super gros défis qui rallongent grave la durée de vie du jeu. Il y a des zones cachées, il y avait la fameuse
zone 51,
la zone 51, avec la warp qui était bien planquée. C'est ultra complet, c'est un super super jeu.
Et bah du coup, moi je vais me faire plaisir, j'ai sélectionné un petit extrait, donc l'introduction du jeu, que je m'écoute toujours, en fait, je trouve génial. Alors. Merci.
Vas-y, c'est parti.
Sony Computer Entertainment Europe presents a Universal Interactive Studios production. A game created and developed by Naughty Dog.
C'est absolument génial.
Magnifique.
Vraiment, j'adore.
Ah, c'est super fun. Hein. C'est... Le côté cartoon est vraiment. T'es à fond dedans d'emblée. Tu sens que tu vas t'éclater, que tu vas t'amuser. Quoi.
Et puis là, t'as même pas joué au jeu. Quoi. T'as une intro qui explose tout. Et voilà, t'es déjà lancé dans le jeu. T'es déjà dedans. C'est trop bien.
Pré-start.
Après Crash Bandicoot 3, du coup, on a eu droit à Crash Team Racing. Donc, Crash Team Racing, c'est la réponse de Sony à Mario Kart 64. C'est aussi pour beaucoup de joueurs leur jeu de cartes préféré. Je sais que beaucoup de gens préfèrent Crash Team Racing à Mario Kart 64, peut-être pas en face de moi.
Donc, c'est vite dit.
Ah, c'est un jeu devenu culte à l'époque et rarement égalé finalement. Donc le jeu reprend la formule de Mario Kart et peut être joué jusqu'à 4, hein, je crois, avec un multitap.
Ouais, c'est ça.
Que personne n'avait.
Oui.
Donc est-ce que vous y avez joué? Est-ce que vous le considérez meilleur que Mario Kart? Et pourquoi, si c'est le cas, ou pourquoi pas?
Alors,
si c'est pas le cas.
Moi, je vais me permettre, c'est tout simplement parce qu'il y avait un mode histoire.
Il y avait un mode histoire.
Déjà, rien que ça, c'est vraiment solo. Bien. Où tu avais du coup différentes zones à aller faire, tu avais des boss à battre.
Il est pertinent le mode histoire surtout.
Ouais.
Parce que ça aurait pu être un ajout débile qui sert à rien, mais il est bien inséré.
Oui, t'as envie de le finir quoi. Ouais. Et pour le finir à 100%, t'as pas mal de défis aussi à faire, du coup, des contre-la-montre, toutes les courses à faire. Et ouais, et les boss sont super rigolos. Enfin, je me rappelle moi du chien, c'était le premier boss que t'avais là, l'espèce de chien fou.
Oui.
T'as quoi d'autre? Enfin, il y en a pas mal, et ils sont tous cool quoi.
Alors j'avoue, je l'ai pas trop fait, mais.
Moi je l'ai fini moi.
Tu l'as fini?
Ouais, mais c'était génial quoi.
D'accord.
Et t'avais la même intro du coup.
Pas tout à fait, je l'ai réécouté. C'est un tout petit poil différent.
Sans le même esprit quoi, mais.
Voilà.
Ouais.
Mais ouais, je trouve que justement, rien que le fait de faire un mode histoire, ça met une plus-value par rapport à Mario Kart, qui n'a toujours pas à l'heure actuelle fait de mode histoire.
Non, toujours pas. Je pense pas qu'il en fera un jour.
Voilà. On fait des petites missions annexes. Il y a un mode mission, notamment sur DS, mais ils n'ont pas fait, oui, effectivement.
Pas fou.
Et mais à mon avis, ils n'en feront jamais. Hein. C'est pas. Ouais, bah. C'est pas leur fond de commerce d'intégrer à Mario Kart.
Ouais. Et du coup, toi, ton préféré, c'est lequel? Entre les deux.
Entre Mario Kart 64 et CTR.
Ouais.
Mario Kart 64, c'est un jeu que j'ai longtemps trouvé moyen. Parce qu'en fait, je pense qu'ils ont voulu trop en faire sur ce jeu-là après Super Mario Kart. Ils ont voulu trop miser sur la 3D. Du coup, ils ont fait des circuits qui sont interminables, mais vraiment qui sont interminables, qui sont chiants à mourir. C'est un jeu qui glitchait de partout, mais vraiment de partout. Hein. Quand on regarde les records du monde en time trial dessus, c'est n'importe quoi. Du coup, pendant longtemps, je l'ai pas aimé des masses. Et c'est vrai que quand j'ai joué à Crash Team Racing la première fois, je me suis dit, ouais, franchement, c'est un bon échappatoire à Mario Kart 64. Avec le temps, en comparant les deux, je pense qu'en fait, ils se valaient très bien. Ils se complétaient surtout. C'est-à-dire que Crash en tant que jeu de course sur les modes Grand Prix finalement n'avait pratiquement que repris la licence Mario Kart, mais en mettant un skin Crash, mais en le faisant très bien. Par contre, il avait ce mode histoire qui lui était propre, qui était très original. Là où Mario avait son identité bien à lui, et puis même si les circuits étaient trop longs, il y avait quand même un level design qui était vraiment très inspiré, à part la Rainbow Road qui est le pire circuit de toute l'histoire de la saga Mario Kart. Vraiment.
On s'en souvient.
Voilà.
On s'en souvient.
La meilleure musique de la saga Mario Kart et le pire circuit en même temps. Ils ont réussi ce tour de force.
C'est magique, c'est magique. Du coup, Naughty Dog est passé à la PS2. Au bout d'un moment, ils ont été obligés et ils nous ont sorti un jeu que peu de gens ont fait ici, je crois.
Moi, j'en ai fait un épisode.
T'as fait quoi, le premier?
Le 2.
Le 2. Ouais, Est-ce que ça se passe façon GTA?
Je pense, j'ai très peu de souvenirs.
Est-ce que Jack parle?
En fait, le problème, c'est que j'étais plus fan de son enfant, j'étais plus fan de Ratchet & Clank en fait.
D'accord, oui, donc, forcément.
Voilà, j'avais les deux écoles quoi.
Donc, il y avait Sly aussi, un peu plus confidentiel, mais il y avait vraiment ces trois séries. J'ai fait les trois Ratchet, j'ai fait les trois Sly et j'ai fait aucun Jack & Dexter. Je dois les faire pour ma culture.
Comme quoi. Donc, en fait, c'est un peu une bonne grosse évolution de Crash Bandicoot. C'est un petit peu le jeu de plateforme que Naughty Dog aurait voulu, en tout cas, c'est ce qu'ils disent dans beaucoup d'articles. Naughty Dog s'est payé un petit peu le luxe de créer un monde assez cohérent, donc soumis visuellement au temps qui passe. Il y avait des cycles jour-nuit, il y avait des missions qui étaient cohérentes, il y avait ce qu'on appelle les piles d'énergie, donc ce qui expliquait par exemple que des plateformes pouvaient soulever tout seules, elles étaient alimentées par des piles d'énergie, donc ils ont essayé de rendre un monde entièrement cohérent.
Ah, c'est cool,
c'était un peu la première fois qu'on voyait ça dans un jeu vidéo finalement, même sur PS2, et c'était un jeu qui avait la particularité de n'avoir, une fois toutes les cinématiques débloquées, aucun temps de chargement. C'est-à-dire du début à la fin du monde, tu n'avais aucun temps de chargement à partir du moment où tu avais parlé au PNJ, que toutes les cinématiques avaient été activées, et ce genre de choses.
Et sur une console comme la PS2, c'était quand même une sacrée performance.
Et c'était quand même assez fou, et je me souviens en tout cas que tu pouvais enlever le disque, une fois que tu avais chargé le monde, tu pouvais enlever le disque de ta PlayStation et continuer à jouer dans le monde jusqu'à ce que tu sois rentré dans une porte, soit que tu parles à un PNJ, mais tu pouvais explorer le monde librement qui était chargé dans la mémoire sûrement RAM de la console. Alors je sais pas comment c'est possible avec une PS2, mais c'était un véritable coup d'éclat pour moi pour l'époque.
Ouais, tu m'étonnes.
Tu sais, t'avais sur PS1 le jeu Vibribone qui était un jeu de rythme.
Ah oui, je m'en souviens.
Tu pouvais y jouer en mettant un CD de ta propre musique, ouais, en ayant sorti le disque qui s'était chargé automatiquement. Donc je pense que t'as certains jeux qui avaient ce genre de système où t'avais tout qui se transférait dans la mémoire interne de la console. Alors excusez les termes techniques pourris, hein, s'il y a des gens qui écoutent et qui trouvent que je dis n'importe quoi. Vous pourrez le signaler, il n'y a pas de problème. Mais concrètement, dans les faits, c'est un petit peu ça. Je pense qu'ils avaient réussi à renouveler un peu ce genre de performance.
Ouais, tout à fait. Du coup, après, ils sont passés à Jak and Dexter 2 et 3. Ils ont changé un petit peu la formule. Donc, le jeu est devenu plus sombre et il a été plus proche après d'un GTA. Jak s'est mis à parler, finalement. Il était complètement muet dans le premier épisode. On a fait des expériences dessus. Le monde est plus sombre. Moi, je trouve finalement moins intéressant. Ça perd tout le côté un petit peu magie du premier qui était vraiment lumineux, qui était, je trouve, super intéressant. Jak 3, c'est un petit peu la même sauce, sauf qu'il est un petit peu mieux scénarisé. Pour moi, c'était un petit peu les prémices d'Uncharted. Il commençait vraiment à scénariser quelque chose et à le rendre un petit peu plus... plus vivant. Oui, avec...
c'est justement parce que tout à l'heure t'évoquais le fait qu'il y avait eu certaines interviews où il disait que il voulait évoluer entre guillemets au fil des générations de consoles. Moi j'ai eu la chance en marge de la sortie d'Uncharted 3 à l'époque d'échanger avec Christophe Balestra, donc le co-président de Naughty Dog, qui expliquait qu'en fait ils ont, à l'époque où sur PlayStation 1 on avait des jeux qui commençaient à être vraiment adultes, genre Tomb Raider, Resident Evil, tout ça, ou Metal Gear Solid, eux ils avaient pris le pari de faire un jeu qui était cartoon, parce qu'ils se sont dit on a des idées pour faire des jeux beaucoup plus matures, mais pour l'instant la PS1 ne nous le permet absolument pas et on préfère du coup faire un truc super cartoon. On verra ce qu'on peut faire sur PS2. Sur PS2, ils ont vu qu'encore une fois ça allait être, il y avait une transition à faire, mais ils étaient prêts à attendre encore une génération de consoles complète pour faire des jeux beaucoup plus adultes. Et c'est pour ça que du coup Jak fait cette espèce de transition mi-cartoon, mi-adulte, avec justement des voix, avec un côté effectivement un petit peu plus sombre. Jak, c'est presque en fait la série de transition entre leur côté super fun et le côté super adulte, super photoréaliste. Du coup, c'est pour ça que c'est peut-être, entre guillemets, des trois séries de l'histoire de Naughty Dog. Je dis pas celle qui aura le moins marqué l'histoire, parce que c'est quand même une saga qui a bien marché, surtout le premier, Jak de Flakers Legacy, qui a encore une très très grosse cote d'amour auprès des joueurs. Mais je pense qu'il y a effectivement ce petit côté transition un peu dans l'historique du studio.
D'accord.
D'ailleurs, pour Jak et Dexter, il n'y avait pas eu aussi un jeu en supplémentaire?
Alors, Jak X, qui était
c'est le Crash Team Racing de Jak et Dexter, en fait.
Voilà, sauf qu'il n'était pas bon.
Oui, c'était pas Naughty Dog qui le...
Je crois que c'était Naughty Dog, mais bon, on va passer ça sous silence.
Il faut le signaler quand même.
Il faut le signaler quand même. Ensuite, donc, ils ont fait les Uncharted.
Vous avez pas de bol parce que dans le quiz, il y a une question qui parle de Jack X.
On verra ça.
J'ai joué. Je m'en souviens.
Donc, je disais, les Uncharted, on n'en parle pas tout de suite. On passe vite fait, finalement, sur The Last of Us, que tout le monde, je crois, a fait ici.
Oui. Guillaume.
Je l'ai toujours pas fini.
Tu l'as toujours pas fini.
J'ai même pas souvent ma PS3, je suis désolé.
Alors, The Last of Us, t'en penses quoi?
Lui, sur PS4, alors.
J'ai pas de PS4. J'aimerais bien.
T'en penses quoi, Guillaume, de The Last of Us?
Bah, écoute, alors... Je comprends les critiques positives autant que les négatives.
D'accord.
C'est-à-dire que le jeu a une superbe ambiance, le scénario est plutôt cool. Après, le côté, il y en a beaucoup qui critiquent le fait qu'il faut toujours aller porter des échelles pour aller les mettre sur des bâtiments, je peux comprendre, mais ça ne m'a pas gêné pour autant.
D'accord.
Donc, je trouve que c'est un très bon jeu, très mature.
Alors moi, j'ai toujours une anti-hype, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui marche, j'en dis un peu du mal, je vois les mauvais points. Donc moi, pour moi, quand Last of Us est sorti, tout le monde en disait du bien.
T'es un vrai punk, en fait.
Et je regardais le truc, je disais, mais le gameplay, ça a déjà été vu, c'est de l'infiltration, ouais, c'est joli, mais sans plus. Puis j'ai commencé à le jouer. Je l'ai acheté très très tard, mais vraiment fin de vie de la PlayStation. Et je me suis pris claque sur claque, niveau scénario, niveau level design, ouais, niveau, parce qu'en fait, c'est un jeu vidéo comme la critique des échelles me faisait assez rire, parce que s'il y a une échelle à déplacer, s'il y a quelque chose à déplacer, bah, ça reste logique dans le monde, dans l'histoire. On n'essaie pas de rajouter un truc du jeu pour, voilà.
Pour moi, c'est le jeu le plus cohérent, finalement, qu'a fait Naughty Dog jusqu'à...
Et le passage avec les girafes, de toute façon,
voilà. Magnifique.
Oscar pour le jeu.
Quoi. Magnifique. Un petit mot sur Uncharted?
Sur Last of Us, tu veux dire?
Oui, exactement, je commence à me perdre un petit peu là.
Last of Us, je pense, moi j'avais fait une fois mon top de mes jeux préférés, et même si je pense que mes trois jeux préférés de tous les temps resteront des vieux jeux rétro, je pense que Last of Us a de très très grosses chances d'être pendant très longtemps mon jeu plus moderne préféré. Ça a été une énorme baffe, en plus c'est un jeu dont j'attendais pas autant. C'est-à-dire que quand il avait été teasé fin 2011, je me suis dit, ouais, bon, bah ça sera Uncharted avec des zombies, c'est cool, je vais bien aimer, mais voilà, ça sera pas le Game of the Year, ça sera pas le Game of the Gen non plus. Et genre 3-4 jours avant sa sortie, j'ai vu les reviews qui sont tombées, je me suis dit, ok, il doit y avoir un truc. Du coup, je l'ai préco en urgence, histoire de me dire, bon, je vais quand même le faire avant qu'il y ait des spoils et tout. Il est sorti donc quand même mi-juin, il faisait super beau, c'était la période de la fête de la musique, j'avais un week-end de 4 jours. Je suis resté 4 jours chez moi alors qu'il faisait 30 degrés dehors, avec les volets fermés, j'y jouais, j'ai pas décroché une seconde et j'en suis ressorti en me disant, oh la vache, c'est une des expériences de jeu les plus folles que j'ai vécues. Je comprends les détracteurs du jeu sur certains points, parce qu'effectivement, c'est un jeu qui a un rythme parfois qui est assez lent, mais toute la progression du jeu effectivement est très logique et très cohérente. C'est un jeu qui est, comment dire, ouais, qui a un réalisme assez froid, et qui du coup est très touchant aussi parce qu'il est extrêmement bien écrit, et surtout on a un des très rares cas de personnages non jouables, en la personne d'Ellie, bon, même si on peut la jouer un moment, un personnage non jouable formidablement bien écrit, et en plus c'est un énorme défi de décrire correctement un personnage d'une gamine de 14 ans, parce que c'était le personnage typique bourré de clichés potentiels,
insupportable de
Resident Evil 4, tu
voilà.
Nous écoutes.
Oh, oui. C'est ça, voilà, Shiva, ouais, quand on pense à Shiva par exemple, ou même, mais même, il n'y a pas que Shiva, des PNJ de merde, il y en a eu des tonnes, et en plus là on avait affaire à une gamine de 14 ans, donc c'était vraiment la foire au cliché possible.
Et lâche con, ouais.
Elle a été complètement réussie de bout en bout. C'est un personnage mieux écrit que quasiment n'importe quel personnage jouable principal de tout un tas de jeux de la même génération. Comme on disait, tu parlais de la scène de la girafe en disant Oscar. Moi, je suis assez d'accord là-dessus. C'est qu'effectivement, si on devait remettre des Oscars pour ce qui est de la mise en scène d'un jeu vidéo, Last of Us, il en remporte un sacré paquet haut la main. Et surtout, pour moi, il a rien envie à un sacré paquet de films.
Totalement, oui. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent on va en faire un film et laissez-le tranquille. Non,
Pas besoin. Et en plus, c'est pas un jeu non plus ultra scripté comme une production Quantic Dream. C'est pas un jeu blindé de QTE, c'est quand même un jeu avec de l'action, avec un peu des zones semi-ouvertes de temps en temps. Et puis les gens qui disent ouais, non, mais c'est super dirigiste, il a pas une bonne IA. Mais faites-le vous en survivant sans le mode écoute et faites pas chier, quoi. Ce jeu en survivant, il est ultra dur. C'est un très gros survival, vraiment.
Ok. Et bah du coup, ça conclut la première partie de notre émission. On va faire une petite pause musicale pendant que Guillaume s'étouffe avec son champomis, je crois.
Oui, tout à fait, c'est ça. Bah du coup, on va écouter en transition une musique de Uncharted.
Et on va ouvrir ça.
Et bah vas-y, c'est parti.
Allez, c'est parti. Donc on vient de s'écouter la musique du trailer de Uncharted 4 qui vient de sortir. Voilà, on va revenir donc sur la saga Uncharted.
Alors, on va juste faire une petite pause parce qu'on a demandé à notre invité, vu que c'est l'invité, il va faire le quiz cette semaine.
Voilà, j'allais dire, mais avant, on passe au quiz.
Effet de transition, donc Antistar, c'est à toi. Oui. On a une petite musique pour le quiz et quand tu veux, c'est parti, on est prêt.
Moi, je suis prêt aussi.
Ok, et bah écoute, c'est parti.
Donc il y aura des questions sur Naughty Dog, sur l'univers de Naughty Dog, et des questions qui n'ont absolument rien à voir. Okay. Je vais commencer par une question qui n'a rien à voir. Hein.
Alors vous comptez les points à côté, voilà. Et puis voilà, on va faire comme ça, c'est parti.
On dit notre nom
quel
bien sûr.
Jeu, quel jeu est sorti simultanément, en même temps donc, sur trois générations de consoles Sony successives?
Julien, FIFA 14.
Très bien.
On en a parlé en fait.
Voilà. C'est une de mes anecdotes que j'aime beaucoup sortir dans des quiz, celle-là.
C'est un point gratuit pour moi.
Donc voilà. Donc effectivement, FIFA 14 qui est sorti sur PS2, PS3 et PS4 en même temps. Donc oui, un jeu sorti sur PS2 et PS4 en simultané, c'est quand même pas mal.
C'est magnifique.
Sur Super Nintendo, il y a un jeu qui sur sa boîte indique à tort qu'on peut y jouer jusqu'à 5. Quel est ce jeu?
Super Nintendo.
Oui.
Super Nintendo.
C'est un jeu qui indique au dos de la boîte sur la version française qu'on peut y jouer jusqu'à 5. Évidemment, ce n'est pas le cas. Quel est le jeu en question?
Ferdi Bomberman 94.
Non.
Est-ce que tu peux nous donner un indice?
L'indice, c'est qu'on peut effectivement jouer à plusieurs, mais certainement pas jusqu'à 5. Et là, c'est pas un jeu qui se joue qu'à 1.
Un jeu qui se joue pas à 1. Sur Super Nintendo.
Je donne un indice un petit peu plus poussé après.
J'aimerais bien.
Tu peux jouer à 3.
À 3. Ferdi, il a l'air d'avoir la réponse.
J'ai un truc.
Sur le bout de la langue, là.
C'est compliqué. Techniquement, je pourrais aller googler, mais je vais pas le faire.
Encore un indice?
Ouais, vas-y.
Après, ouais, ce sera le dernier.
Vas-y.
C'était un RPG.
Et ben.
Sur Super Nintendo RPG.
Secret of Mana?
Oui.
Oui.
Secret of Mana, sur la boîte française, il y a marqué au dos qu'on peut y jouer jusqu'à 5.
D'accord.
Alors qu'on ne peut y jouer qu'à 3 avec le multitap. Ce qui est déjà bien.
Ce qui est déjà pas mal.
Alors, une question Naughty Dog. On parlait de Last of Us tout à l'heure. Dans l'extension. Left Behind, il y a un easter egg pour un précédent jeu de Naughty Dog, duquel s'agit-il?
Julien, Jack and Dexter?
Lequel?
Je suppose le
faut
premier.
Préciser.
Je suppose le premier, je crois
non.
Que c'est un œuf précurseur,
non.
Un truc comme ça?
Non.
Et bah c'est. À vous, hein, bah, vous avez un point
Guillaume Jack X. Parce qu'on a parlé de...
Effectivement, il y a une borne d'arcade, il y a une borne d'arcade Jack X. Effectivement, dans le supermarché dans lequel Ellie et Riley entrent, il y a une borne d'arcade Jack X. Et d'ailleurs, il y a un trophée caché pour avoir essayé de lancer la borne Jack X sans succès, évidemment, puisqu'elle ne marche plus.
D'accord.
D'accord.
Tout le monde sait qu'il y a eu en Europe 3 Super Mario Bros. Sortis sur NES. Donc Super Mario Bros. 1, 2 et 3. Mais Super Mario Bros. 2 ne s'appelle absolument pas comme ça au Japon. Comment s'appelle-t-il?
Julien. The Lost Levels.
Non.
Même pas.
Je parle, attention, je parle bien du Super Mario Bros. 2 où on soulève des légumes.
Oui, oui. Ah, tu veux dire le nom original?
Non plus. Non, parce que donc le nom original n'a rien à voir. C'est-à-dire que ce Super Mario Bros. 2, ouais. Il est pas sorti au Japon à l'époque, ils l'ont réédité un petit peu plus tard sous un autre nom.
Ah, je sais pas, je sais que c'est Doki Doki Panic à l'époque.
Alors, Doki Doki Panic, voilà, ça c'est le nom du jeu d'origine dont est inspiré le Super Mario Bros. 2 occidental.
Ah,
ça c'est une bonne petite.
Ah, c'est pas un jeu avec les Tiny Toons ou quelque chose comme ça, non? Ça me disait quelque chose.
Le joueur du grenier, tu pensais.
Non, mais il me semblait que je l'avais déjà vu. J'avoue, je suis perdu.
En général, ça on le sait ou on le sait pas, donc au pire.
Vas-y, je te.
Il s'appelle Super Mario USA.
Oui!
Super Mario USA.
Voilà, et d'ailleurs, dans la version japonaise de Mario All-Stars qui s'appelle Super Mario Collection, on a donc Super Mario Bros. 1, Super Mario Bros. 2 qui est donc le The Lost Levels, Super Mario Bros. 3 et Super Mario USA.
D'accord.
D'accord.
Et bah, on le saura.
Voilà. Il est sorti en 91, je crois, au Japon, alors qu'il était sorti en 88 en Occident. Vous connaissez Zelda?
Oui,
voilà.
ça va. Un petit peu.
Donc je suppose que les noms de Saria, Mido et Darunia vous sont plutôt familiers.
Ça me dit quelque chose.
Mais à quoi est-ce qu'ils correspondent dans Zelda 2?
Wow. Zelda 2. Personne n'a fait Zelda 2 ici.
Si,
toi tu l'as fait.
Si, moi je l'ai même.
Et bah, tu es.
De speedrun, mais attends.
Parce que dans Ocarina of Time, voilà, c'est des personnages du jeu, mais à quoi correspondent ces noms dans Zelda 2?
Et bah, c'est pas des noms de boss?
Non.
Non.
C'est pas les noms de certaines magies?
Non plus.
Non.
Non, les magies ont des noms complètement classiques, genre Fire, ouais, Gem, ouais, tout ouais. Ça.
Je sais pas. Vu qu'ils sont trois à la Triforce, allez, vas-y, au pif.
Non.
Non, vraiment, je sais.
C'est le nom de trois des villages du jeu. Les villages portent ces noms-là.
Ok.
Ah, d'accord, tout simplement.
Nouvelle question Naughty Dog. Vous notez toujours les points?
Ouais, moi je suis à 1, okay.
Je suis à 2, je suis à 3, je crois.
Nouvelle question Naughty Dog, et voilà la question débile du jour. Quel est le point commun entre le patron de Naughty Dog, le personnage principal d'Uncharted et le studio de développement, tout simplement, de la série?
Guillaume, leur prénom se commence par N. Non, je sais pas.
La barbe.
Je sais pas. On est pas loin.
Ah, ND.
Oui, oui. Ah, Neil Druckmann, Naughty Dog et Nathan Drake.
Bien.
Voilà.
Bien.
Initial ND.
Bien joué.
Quel compositeur de renom dans le milieu du cinéma se trouve derrière la BO de Beyond Two Souls?
Oh là. C'est nos questions là.
C'est pour vous ça.
Un compositeur de renom. Je veux des noms. Compositeur de quoi? Vas-y,
mais
dis-moi.
Si je l'ai, c'est...
On fait en coop, on se partage le poids, allez.
C'est celui de Batman, non? C'est
Hans Zimmer.
Oui, c'est Hans Zimmer, voilà, c'est ça. Allez. Donc un demi-point pour chacun, alors.
C'est ça.
C'est Hans Zimmer, voilà.
Attends, j'avais plus...
Simplement, en plus, j'allais le dire au pif, donc je me suis dit, non, c'est pas possible.
Si, il a fait la BO.
Quel est le nom original de Castlevania avant donc sa sortie sur NES, quand il était sorti sur MSX?
Ah, la vache, moi.
Vampire Kiss?
Non, ça c'est...
Presque.
Je sais pas, Dracula? Non.
Il y a un truc avec vampire alors.
Ouais.
Mm-hmm. Ça fera peut-être qu'un demi-point là du coup. Hein. Une indice.
Je sais pas. Je suis perdu.
Vampire, c'est le.
Vampire Killer.
Ouais, Vampire Killer, ouais. C'était ça.
D'accord.
Nouvelle question Naughty Dog. C'est plus une question de rapidité qu'autre chose. En quelle année est sorti Uncharted 1?
Julien, 2009? 2007, pardon.
Oui, 2007.
Ah, j'allais dire 2007 aussi. Putain.
2007, en octobre 2007, pour être plus précis.
Ok.
Une question, tiens, pour un concurrent, justement, d'Uncharted, pour une exclusivité Xbox, tout simplement, une exclusivité Xbox 360. On va parler d'Alan Wake. Mm-hmm. Quelle marque est présente sous forme de placement de produits assez régulièrement dans Alan Wake?
La Twilight Zone, on peut considérer que c'est un placement de produit?
Non.
Une boisson.
C'était bien pensé, mais c'est pas ça. C'est vraiment une marque réelle.
C'est une boisson, il me semble.
C'est une boisson, ouais.
Non.
Même pas.
Le pire, c'est que ça pourrait être un nom de boisson, mais c'est pas ça.
D'accord. Oh là là. Mountain Dew?
Non.
Je saurais pas dire.
Doritos?
J'étais sûr que quelqu'un allait dire dans la foulée, mais non. Allez, je vous donne un indice. Mmh. Je vais vous dire quel est le produit en question et vous allez me trouver la marque. Donc
vas-y.
Ça fera qu'un demi-point. C'est les piles.
Ah, Energizer.
Exactement.
Exactement. Ah oui,
et ils ont reproduit, et Remedy a reproduit le coup avec Quantum Break où il y a du placement de produits Nissan absolument
oui,
partout.
Ça
dans le
je
jeu.
L'ai vu par contre. Voilà. Et Windows Phone aussi. Mais
aussi, oui, mais bon, c'est Microsoft donc ça se comprend. Il y a du placement de produits Sony dans The Last of Us aussi.
Oui.
Avec le Walkman Daily.
C'est vrai.
Et il y a PS3 aussi qu'on trouve à certains moments dans le jeu.
Ok. Alors combien il nous reste de questions?
Il reste 4 questions.
On va jusqu'au bout.
Non, 3 questions, 3 questions, pardon. 2 questions Naughty Dog et une question généraliste. Le nom d'un niveau de Crash Bandicoot 1 se trouve sous forme d'easter egg dans Uncharted 1. Savez-vous quel est le nom du niveau et où on le trouve? Limite ça vaut 2 points là, franchement. Un point pour chaque élément trouvé.
En plus je crois que c'est dans les notes, si vous regardez bien, mais je n'en suis pas sûr.
Oh là là.
Non, je sais plus.
Alors je vais donner le nom du niveau et après on va voir si vous savez où est-ce qu'il se trouve. C'est un niveau qui s'appelle Hog Wild. Et où est-ce qu'on le trouve dans Uncharted 1?
Alors là, Uncharted 1, ça fait trop longtemps pour moi.
Ah, c'est des questions qui vous ont été faites par un gros fan, hein, forcément.
Si explique la difficulté. Bah moi, j'ai pas fait le 1 en plus, donc c'est compliqué.
C'est compliqué, ouais.
C'est dur. Pour moi, je sèche. Guillaume. Ferdi.
Sèche.
Alors, Hog Wild, en fait, c'est le nom de l'hydravion de Sully, au tout début du jeu, quand il retrouve Drake sur le bateau qui coule, qui le secoue en hydravion, et son hydravion s'appelle Hog Wild.
C'est vraiment une question de fan, effectivement.
C'est une grosse question de fan.
Ok, question suivante.
Quel geste commercial a proposé 2K, éditeur de Duke Nukem Forever, pour compenser le retard de son jeu ainsi que sa qualité très moyenne?
C'est un retard général, pour un client ou pour beaucoup?
En général, pour les gens.
Des prostituées, pour aller avec le jeu. Non. Ça aurait pu.
Non.
Bon. Je sais pas.
Ah, j'ai pas, non. Parce que je me rappelle un client qui avait gardé son ticket de réservation.
Oui, depuis 97.
Ça, c'était pas mal, ça.
Ouais. C'était beau.
Mais sinon, j'ai pas.
Non, j'avoue, j'ai pas entendu ça non plus.
C'est la deuxième question con, parce qu'il y en a absolument aucun qui a été proposé. c'est juste un peu pour se foutre de la gueule et Game Forever, en fait.
Ok.
T'as le droit.
Et alors celle-ci, donc moitié Naughty Dog mais quand même pas mal. Quel jeu non développé par Naughty Dog contient un easter egg de Jack and Dexter?
De Jack and Dexter non développé par Naughty Dog. Et bah sûrement un truc genre Ratchet & Clank.
Ça va avoir 3/4 de points, ça, quasiment, ça.
Ah, bon.
Guillaume, le Little Big Planet.
Non, ah non, il était beaucoup plus près. Je vais même lui accorder le point parce que c'est quand même bien pensé, c'est dans Ratchet & Clank 2.
Eh bah, c'est pas loin.
Dans Ratchet & Clank 2, alors je me rappelle plus le nom de la planète en question, mais à un moment, t'as donc nos deux héros qui entrent dans une espèce de grande salle avec des écrans, et il y a un portrait de Jack and Daxter qui se trouve dedans.
C'est classe.
D'accord.
C'est alors que c'est un jeu, bon certes c'est une autre exclu Sony, mais c'est un autre studio, à savoir Insomniac, et donc ils ont fait une petite dédicace à leurs copains de chez Naughty Dog.
Très bien, très bien, très bien.
Qui a gagné du coup ?
Eh bah du coup, je crois que c'est moi.
Ouais, c'est oui, Julien.
Oui. Clairement, oui.
Et le gage, il est pour qui alors ?
Alors le gage, il est pour le grand perdant, je crois.
Ah, ça va être
que
moi.
C'est Ferdi.
Ah, totalement.
Alors Ferdi.
Donc il faut que je trouve un gage. De finir Zelda 2 à 100% sur NES en PAL.
Déjà fait.
Et bah réfléchis-y et on passe à la suite pour l'instant et on verra ça en fin d'émission. On fait comme ça ?
Ouais.
Ok.
Allez, on enchaîne du coup là sur le vif du débat.
On enchaîne sur le vif du sujet. Du coup, on va parler d'Uncharted. Donc Uncharted, cette série a commencé en 2007 sur PS3. Donc c'est un petit peu le Jack and Dexter de la PS3 pour Uncharted. Alors on va commencer, on va oublier finalement l'histoire qui n'est pas des plus intéressantes au départ en tout cas. On va directement commencer par la question traditionnelle. Comment vous avez connu ce jeu ? On va commencer par toi, Ferdi.
Alors moi, comme souvent, j'ai découvert par le 2, et en fait, c'est grâce aux références cinéma dans le jeu qui m'ont donné envie d'y jouer, en fait.
D'accord, voilà. Ok. Guillaume ?
Moi, je me rappelle surtout des publicités de Drake's Fortune.
D'accord.
Okay. Ouais, je me rappelle, ça avait l'air trop bien.
Ok. Voilà. Antistar, comment t'as découvert Uncharted ?
Via le 1, c'était un des jeux qui me faisait le plus envie pour acheter une PS3. Donc quand j'ai une PS3, ça a été tout simplement mon premier jeu. Et d'ailleurs, c'est le seul jeu PS3 que j'ai fait d'abord sur un écran cathodique en 4 tiers. Avant de le faire en HD, et donc la fois où je l'ai refait en HD, j'ai pris une claque monstrueuse, parce que déjà que je le trouvais très beau sur cathodique, alors en HD c'était... voilà. Il était déjà plus beau que les jeux PS2, hein, alors quand on le passait sur un écran HD...
Ok.
Grosse baffe.
Alors, est-ce que vous pensez que la saga Uncharted a un petit peu révolutionné le monde du jeu d'action-aventure plateforme ? Est-ce que pour vous, à l'époque, c'était finalement le nouveau Tomb Raider ? Avant que Tomb Raider redevienne à s'inspirer finalement de Uncharted ? Comment vous l'avez ressenti finalement à l'époque ? Est-ce que vous considérez quand même que les deux jeux étaient différents ? Ou est-ce que vous pensez que voilà, ça a apporté un souffle, vraiment un gros, gros souffle d'air frais au genre ?
Bah ouais, un gros souffle parce que les mécaniques sont entre guillemets plus fluides.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est la fluidité par exemple des combats, de grimper par rapport aux vieux, au vieux Lara Croft ou même aux plus récents qui sont sortis sur Wii, PS2, etc. C'est beaucoup plus agréable à jouer. Et après, bon, si on compare maintenant avec les nouveaux Tomb Raider, c'est kiff-kiff.
Ouais, bah oui, du coup, voilà. On s'est
donc
aperçu.
Ça a apporté quelque chose de nouveau quand même.
D'accord. Oui. Ferdi, ou n'importe quand, Antistar, vas-y.
Ok, je suis plutôt d'accord sur le fait effectivement que ça a redonné un gros coup de jeune à tant de mécaniques. Par contre, que ça ait repris vraiment le. Comment dire. Que ça ait marché à ce point-là sur les plates-bandes de Tomb Raider, je suis à moitié d'accord. Dans le sens où effectivement, il y a une énorme inspiration de l'univers de Tomb Raider. C'est vrai que c'est un chasseur de trésors, c'est une catastrophe ambulante qui, finalement, pour un fan d'archéologie, ce genre de truc, fait absolument. Il fait plus de dégâts qu'il finalement sauvegarde le patrimoine, mais s'y intéresse.
Ça, c'est sûr.
Mais il y a aussi d'autres héritages à chercher du côté de Prince of Persia ou même de Resident Evil 4, je trouve, par moment. C'est presque un fourre-tout en fait de tout un tas de jeux qui avaient très bien marché, qui avaient des bonnes mécaniques. Et comme Tomb Raider était effectivement en train de tomber un peu en déliquescence, même si Tomb Raider Underworld de sortie la même année
était très bon,
était très sympa, ça a mis voilà, un gros coup de jeune à un style action-aventure, mais je pense en le mettant surtout au niveau des canons de la génération HD. Il y avait certaines. Comment dire ? Certaines évolutions très notamment cinématographiques qui étaient vraiment à mettre en avant. Donc du coup, on a vraiment vu la quintessence de ce qu'on appelle le jeu popcorn avec Uncharted. C'est très cinématographique, on en prend plein la tronche. L'avantage, c'est que ça reste quand même super fun à jouer. C'est pas prise de tête, c'est accessible. C'est sûr que c'est pas un jeu avec un gameplay ultra profond. Mais voilà, ça a révolutionné à sa façon tout un tas de jeux voilà, d'action-aventure très accessibles, très sympas. Grand public malgré tout, même si effectivement ça reste Peggy 16 et que c'est assez bourrin par moment, mais c'est quand même beaucoup plus fun et beaucoup plus sympa et même familial qu'un Call of ou même un GTA. Mmh. Je veux dire, D'ailleurs, c'est que Peggy 16 justement, c'est, ouais. Pas de la... c'est pas une débauche de violence, c'est plus une grande aventure avec effectivement des flingues et des effusions de sang de temps en temps. Mais voilà, c'est la version jeu vidéo d'Indiana Jones, quoi, clairement.
Voilà, donc j'allais vous poser la question, du coup, pour vous, ce jeu est inspiré de quel style, de quel film, de quel jeu, ouais. de quelle série ?
Clairement Indiana Jones.
Clairement oui. Indiana Jones, on est d'accord.
Il y a du Indiana Jones, il y a du Lost pour le côté mystérieux, pour le côté format.
Surtout pour le 1. Pour le 1, le 1, on dirait l'île de Lost, hein, vraiment.
Ouais.
Même si Tomb Raider 2013 va encore plus de ce côté-là, je trouve.
Oui, beaucoup plus. Il y a aussi un côté aussi les vieux films d'aventure qu'on avait avant, genre pas Indiana Jones, mais comment ça s'appelle, La poursuite du diamant vert, tout ça. Mmh. Ah, ouais. Côté maladroit aussi du héros qui fait penser à certains vieilles comédies américaines. Enfin, c'est moi en fait, je suis moins fan que je pense certains d'entre vous autour de la table de Uncharted. Pour moi, c'est j'ai pas.
C'est un côté très BD aussi.
Voilà, oui, mais ça va pas transporter. Mais par contre, c'est vraiment le spectacle, quoi. C'est vraiment, c'est généreux, en fait, c'est de la bonne générosité. C'est-à-dire que, contrairement à d'autres jeux qui m'en mettent plein la vue pour vendre, eux, ils ont essayé de te transporter dans une histoire avec, je me rappelle de la scène dans le désert, la scène de l'avion, des choses comme ça, la scène de la pyramide, des choses, ou le rocher qui te poursuit, quoi. C'est vraiment pour te, dans tous les Uncharted, je les mélange parce que je les ai fait vraiment en un bloc. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment du spectacle pour faire plaisir, quoi.
Alors, et moi, ils ont rendu les personnages attachants aussi,
voilà,
c'est
oui,
important.
Oui.
Alors justement, les scènes où il se fait poursuivre par exemple par un rocher, on s'aperçoit que ça a été présent dans quasiment tous les jeux Naughty Dog. Mm. Est-ce que c'est une marque de fabrique pour vous ? Est-ce que c'est un easter egg ou est-ce que c'est vraiment le...
C'est juste qu'ils ont kiffé Indiana Jones.
Ils adorent ça, on est d'accord.
Ça. Ouais.
On l'a vu dans Crash, on l'a vu dans tous les jeux du studio. C'est et vrai. C'est vraiment une scène qu'on attend presque à chaque fois en se disant...
Je l'ai attendu dans Last of Us.
Sans la voir.
C'est ça.
Last of Us se démarque, hein. C'est-à-dire que tu penses oui. vraiment dès le début, ouais, tu dis bon, c'est une Naughty Dog, tu vas reconnaître leurs pattes par moment.
Le héros, mais... rien que le héros voilà. En fait. Mm. Mais le reste.
Ok. Ouais. Game, il nous reste combien de temps pour l'émission ?
Alors, il nous reste 5 bonnes minutes. 5,
ok, 6. Alors on va parler juste un petit peu des graphismes du jeu. Est-ce que ce jeu vous avait mis à l'époque une claque mais
oui.
À quel
oui.
point ?
Totalement.
Comme j'avais dit, c'est le spectacle, quoi.
Le spectacle absolu, Game.
Oui. Par exemple, moi, le 3, ouais. La scène. Où t'es dans l'avion au-dessus du désert, c'est magnifique.
C'est magnifique.
C'est vraiment.
Je suis d'accord. Antistar, si t'en penses.
Oui, grosse claque sur le 1 qui était le plus beau jeu PS3 à sa sortie. Grosse claque sur le 2 qui était le plus beau jeu console à sa sortie.
C'est ça.
Et grosse claque sur le 3 qui, alors qu'on avait quand même une génération qui était déjà pas loin de sa fin de vie, est resté complètement au top. Et le pire, c'est qu'on pensait même pas qu'ils pouvaient faire mieux. Ils ont réussi, les mecs, à sortir Last of Us après, qui est peut-être encore plus violent, dans le sens où il a une direction artistique qui est parfaite. Uncharted, c'est très coloré, ça a presque un petit côté comique BD, comme je disais. Ça cherche à montrer des très très beaux paysages avec des étendues de toutes les couleurs possibles et imaginables. Ils ont cherché à montrer tout ce qu'ils pouvaient montrer de des régions du monde modélisées. Last of Us est plus réaliste, plus froid, mais pour le coup, lui, il est carrément photoréaliste.
Alors, on va essayer de donner envie aux gens de jouer à la saga. Et est-ce que vous pouvez me raconter chacun le passage qui vous a le plus marqué dans Uncharted ? Eh ben, on va recommencer avec
Alors
toi,
moi, vu que j'ai commencé par le 3, enfin, j'avais vu le 1, le 2.
D'accord.
Et quand j'ai pris en main, j'ai adoré, en fait, dès le début du 3, la scène de baston dans le bar.
Ouais.
En fait,
ouais.
Où j'ai trouvé direct que les combats étaient vachement énergiques.
Assez péchu.
Ouais,
assez...
voilà. Et après, tu prends la claque à chaque nouveau décor, en fait. Voilà.
D'accord.
Si vous faites Uncharted comme moi, je l'ai fait, vous verrez, vous aurez la même chose qu'une bonne série télé ou un film à suivre. Parce que, en fait, on s'attache énormément à Nathan Drake, en fait.
Ouais.
Même si le jeu, on peut avoir son recul, le héros est trop attachant, quoi.
Mais est-ce qu'il y a une scène, toi, qui t'a marqué en particulier ?
Moi, plus la première fois qu'on voit le désert dans le 3, en fait.
D'accord.
Parce que c'était trop beau. Et c'est surtout, en fait, c'est vraiment une mise en scène, quoi. Il y a vraiment le sens de la mise en scène.
Ouais.
Voilà.
Ok. Antistar.
Pendant très longtemps, j'aurais été super cliché et dit le passage du train dans le 2, parce que c'est vraiment le passage le plus marquant, je pense, objectivement, de tous les gens qui ont fait la trilogie. Mais moi, mon coup de cœur, c'est tout le passage dans le paquebot, dans le 3.
D'accord.
Parce que il y a toute une anecdote technique derrière qui fait que c'est un passage très 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 balèze techniquement pour l'époque, et en plus je trouve que c'est une synthèse en fait de ce qu'est Nathan Drake et des emmerdes qui lui arrivent. C'est à dire qu'il se retrouve dans une séquence où il est seul au monde, il s'attend à retrouver un allié que finalement il ne va pas retrouver, il va tomber face à des hordes d'ennemis plus balèzes les uns que les autres, dont un qui est le plus balèze qu'on connaît de tout le jeu à ce moment là c'est une séquence qui est visuellement bluffante, qui au niveau du son est complètement dingue, et c'est dantesque. On a l'impression qu'on pouvait pas en mettre plus plein la gueule qu'on avait mis jusque là, mais si, cette scène du paquebot, elle arrive à en mettre encore plus plein la tronche. Et sa conclusion et ce qui se passe après, c'est une scène qu'on vit avec soulagement, justement parce qu'on est très attaché au personnage et qu'on est content de voir qu'il a trouver le moyen de s'en sortir alors qu'on voit pas comment il pourrait s'en sortir.
D'accord. Alors, du coup, je crois qu'on est bientôt à la fin de l'émission. Est-ce qu'on a le temps de dire quelques mots sur Uncharted 4 ?
On a le temps.
On a le temps. Alors, apparemment, Antistar, tu as trouvé le jeu en magasin un petit peu en avance.
Ouais, voilà. Moi, je fais partie donc des chanceux qui ont joué Uncharted 4.
D'accord. Enfin,
pour l'instant, pas forcément beaucoup.
Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire sans nous spoiler pour l'instant ?
Sans rien spoiler, alors le truc qui est évident, ça on peut rien dire dessus, je pense que c'est tous les tests sont unanimes là-dessus, c'est que probablement c'est le plus beau jeu qu'on ait vu sur console. Alors je dis bien console, hein, parce que c'est vrai que sur PC en ultra on peut avoir des trucs qui sont un peu plus poussés que ça, mais c'est clairement le plus beau jeu console qu'on ait vu. Au niveau de la direction artistique, des toutes les reproductions de décors qu'ils ont fait, ils ont quand même réussi encore une fois à se mettre un ton au-dessus de toute la concurrence. Alors que pourtant, ils avaient quand même déjà des bases très solides. Pour avoir refait très peu de temps avant la version remaster de The Last of Us une énième fois, j'ai un élément de comparaison et je pensais pas pouvoir trouver un jeu qui serait plus beau en fait que le remaster de The Last of Us, mais il l'est. Et au niveau de ce qu'est la saga, elle a sa jouabilité habituelle, hein, c'est-à-dire que quand on a joué à Uncharted et qu'on aime les Uncharted, on n'a aucune raison d'être déçu. Si on n'aime pas le style Uncharted, qu'on est réfractaire, qu'on est un détracteur d'Uncharted, on n'aimera pas non plus, hein, honnêtement. C'est pas cet épisode qui fera plus aimer la saga aux détracteurs, parce que ça reste toujours un jeu d'action qui enchaîne exploration, gunfight, petites énigmes. Mais par contre, il est plus vaste, il y a des environnements un petit peu semi-ouverts. Presque comme dans les nouveaux Tomb Raider en fait qui sont sortis récemment.
Ouais. Comme Rise of the Tomb Raider d'ailleurs.
Exactement.
Un passage comme ça.
Exactement. Qui d'ailleurs est un super jeu honnêtement. Ouais. Je l'ai fait sur Xbox One à sa sortie. Petite aparté dessus. J'attends de voir sa sortie PS4 pour voir tout un tas de gens qui l'ont pas fait sur Xbox One le faire et en discuter avec eux aussi et voir si éventuellement ils ont corrigé quelques petits bugs qui étaient quand même assez désagréables, notamment les freezes intempestifs. Mais clairement Uncharted 4 est techniquement, il est au-dessus de Rise of Tomb Raider, qui déjà était impressionnant. Okay. Et en termes de jouabilité, c'est du plaisir. C'est une expérience qui, je pense, révolutionnera pas forcément son genre ni la série, mais de ce que j'en ai vu pour l'instant, c'est clair que c'est un épisode, ça sera jamais l'épisode de trop.
Il est pas raté pour toi.
Pour l'instant, de ce que j'ai
pour
vu jusque-là,
de ce que t'as vu, non.
Ah non, ce que j'ai vu jusque-là, c'est. Je pense que les journalistes qui mettront des 18 ou 19, je les comprendrai tout à fait dessus.
D'accord, ok. Je pense qu'on arrive déjà à la fin de l'émission.
Oui, tout à fait.
Ça va très très vite, hein.
Ouais, on a en même temps parlé d'un studio avec beaucoup de jeux.
Exactement.
Un bon studio.
Alors, un très bon studio.
J'ai reçu un SMS de Professeur Gorpheus, il ne vient pas, je crois qu'il s'est cassé la jambe ou quelque chose comme ça.
On lui a cassé la jambe plutôt, je pense.
Comment il est insupportable.
Je ne dirai rien, je ne parlerai qu'en présence de mon avocat.
En présence de Maître Gorpheus.
Voilà, par exemple. Donc, on arrive déjà à la fin de cette émission. On remercie Antistar d'être venu.
Oui,
ça
beaucoup,
nous a fait
beaucoup.
Très plaisir de te recevoir. L'émission est passée très vite, malheureusement.
Ouais, c'est
vraiment dommage qu'on ait qu'une heure pour parler de tout ça, parce que le sujet était très vaste.
Ah, bah oui.
Merci à vous deux aussi d'avoir été là. Et on vous dit à dans 15 jours pour un sujet que nous n'avons pas encore
probablement
défini.
Probablement la DreamHack,
mais comme on est feignant, pour l'instant, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Mais la DreamHack en direct, c'est vrai que ce serait bien. On va y penser.
Allez, à la prochaine.
Salut.
Au revoir.